Billet 7, la confiance, ça se travaille. Nous avons parfois tendance à considérer la confiance comme un état inné, acquis automatiquement par les personnes concernées. La confiance de quelqu'un se gagne difficilement et se perd rapidement. Rassurez-vous, si votre confiance est altérée, tout n'est pas perdu. Comme nous l'avons vu dans le billet 6, l'un des trois éléments essentiels pour mettre en place le co-leadership est la confiance. Nous avons l'habitude de dire « j'ai confiance » ou « je n'ai pas confiance ». Ce n'est pas très aidant quand on pense que nous sommes une famille en affaires et que nous voulons le rester. Or, la confiance ne se bâtit pas d'elle-même. Plusieurs outils offrent des pistes afin de comprendre comment mettre en place des liens de confiance solides. L'article « Sustaining Trust Within Family Businesses » a été l'un de mes coups de cœur. Il décortique la confiance en trois phases. Confiance interpersonnelle, la confiance au niveau de la compétence, la confiance dans les systèmes. J'ai découvert cet article à travers Family Firm Institute lors de ma formation du Advanced Certified Family Business Advisor. J'y ai découvert des nuances très constructives. La perte de confiance pour une famille en affaires est souvent lourde de conséquences. Les familles en affaires ont un avantage compétitif certain par rapport à la confiance. Or, ce lien précieux qui les anime est également fragile et chacun sait que la perte de confiance pour une famille en affaires est souvent lourde de conséquences. Ça peut aller jusqu'à ne plus voir ses petits-enfants. Shamu Sundaramut, auteur de l'article « Sustaining Trust Within Family Businesses », adresse comment maintenir la confiance, une relation dynamique et aux multiples facettes au fil de la progression de l'entreprise familiale. Pour ce faire, l'auteur a mixé la littérature de la science organisationnelle et les modèles pour maintenir la confiance dans les familles en affaires. Voici leur cycle durable de la confiance. Confiance interpersonnelle, la confiance au niveau de la compétence et la confiance dans les systèmes. Au premier stade, les membres d'une même famille se font confiance naturellement. Par contre, trop de confiance entre les membres d'une même famille peut apporter un problème de fermeture aux influences extérieures. Ils peuvent facilement attribuer leur succès à la cohésion de la famille et en conclure que le consensus est à prioriser, ce qui risque de les amener à prendre des décisions contre-productives et à devenir complaisants. Un trop-plein de confiance est dangereux pour une entreprise familiale. Ainsi, l'objectif que chaque entreprise doit viser est de maintenir cette confiance qui réduit les conflits dysfonctionnels tout en accueillant et en appréciant la valeur d'un conflit fonctionnel. L'article ne définit pas les conflits fonctionnels et dysfonctionnels. Pour les familles en affaires qui recherchent toujours l'harmonie, c'est parfois difficile à comprendre. L'étude « Structural Household Difference and the Effect on Conflict Quality » de Tia McDonald et Maria I. Marshall de Purdue University apporte un visuel intéressant sur l'effet du bas niveau de conflit. Il est aussi néfaste que trop de conflit. Selon Tia McDonald et Maria I. Marshall, l'implantation d'un processus pour maintenir un équilibre entre les besoins des individus et de l'entreprise augmente la qualité des conflits. Pas assez de conflits ou trop nuisent autant au succès de l'entreprise. Cet état de fait surprend souvent les familles en affaires. La confiance au niveau de la compétence. Revenons maintenant à l'article principal. Les conflits fonctionnels et dysfonctionnels peuvent cohabiter, selon lui. Le deuxième stade, la confiance au niveau de la compétence, ne se situe pas forcément en marge de la confiance interpersonnelle. Elles peuvent se superposer. Les gens qui, par exemple, ne travaillent pas dans l'entreprise, les actionnaires, ont besoin de savoir que les dirigeants en place sont en mesure de manœuvrer dans un monde changeant. Les actionnaires doivent pouvoir faire confiance aux dirigeants, doivent savoir qu'ils sont en mesure de faire fleurir les actifs de l'entreprise. À ce stade, développer des structures et des processus décisionnels est fondamental. Il est également fortement recommandé d'inclure dans ces processus des membres externes à la famille. Troisièmement, la confiance dans les systèmes. Au troisième stade, l'entreprise familiale devrait avoir acquis un système et un processus qui fonctionnent, dans lequel l'information transmise aux employés se veut transparente et adaptée selon leur rôle et leur rapport à l'entreprise. Selon certaines études, les conflits sont prévisibles, alors pourquoi ne pas les prévenir le plus possible? Avoir des règles claires diminue l'ambiguïté dans les rôles, gère les attentes des membres de la famille et des employés et augmente la confiance dans le système. Développer une transparence dans les évaluations de la performance, autant des membres de la famille que des non-membres, aide à construire la confiance. Voici les éléments à retenir pour maintenir la confiance à travers le temps. Ouverture au monde extérieur, transparence, formaliser les activités organisationnelles, établir les critères d'entrée et de sortie des membres de la famille, cercle de communication. Vous l'aurez peut-être déjà compris, la communication est fondamentale afin d'accomplir les trois cycles de la confiance. Mettre des structures de communication permanentes, telles que le conseil de famille et le comité consultatif ou conseil d'administration, au sein d'une entreprise familiale devient approprié. C'est ce que nous allons couvrir dans le prochain billet de blog.